les quatre saisons.
La politique est un cycle.
Il ne faut pas faire n'importe quoi pour le symbole.
Elle est faite d'orages et d'éclaircies.
Et que le soleil brille pour tous.
Un éternel recommencement.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on va revenir sur une saga qui n'en finit pas.
Une vieille rengaine, celle de la sortie du nucléaire en Belgique.
Un dilemme qui n'est toujours pas tranché.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ?
Automne.
Le suspense sera resté entier jusqu'à la dernière minute.
La Belgique actera-t-elle ou non sa sortie du nucléaire en 2025 ?
Le nucléaire stop ou encore ?
C'est ce vendredi que le gouvernement doit débattre de la sortie du nucléaire.
Malgré un accord de gouvernement se dirigeant vers une extinction des réacteurs,
deze regering herbevestigt ook de kernuitstap.
La question tourmente toujours la Vivaldi.
Nous, on fera tout pour que la Belgique ne tombe pas dans le noir.
Je suis ici en tant que ministre de l'énergie pour exécuter l'accord de gouvernement.
Une saga politique dont la Belgique a le secret.
On ne va pas demander à tous les Belges d'acheter un groupe électrogène et un jerrycan d'essence.
Des débats sans fin.
Nous, en Belgique, on va sortir du nucléaire, il faut le faire.
Sur le plan scientifique, c'est nul.
On va devoir remplacer un peu par du gaz.
Des rebondissements inattendus.
La ministre flamande de l'Environnement refuse le projet d'une centrale à gaz à Vilvoorde.
Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes.
Je dis stop.
Alors cette semaine, on s'est demandé si c'était bien la dernière fois qu'on en parlait de ce dossier.
La sortie du nucléaire n'est pas un but en soi, c'est un moyen de passer à une énergie 100% renouvelable.
Le raisonnement qu'elle fait est un raisonnement faux.
Si la Belgique parviendrait à trancher le débat une fois pour toutes...
On est devant un dilemme aujourd'hui. Les deux centrales doivent rester ouvertes.
Ou bien si l'issue en resterait une fois de plus incertaine.
C'est une discussion qui est quand même un peu plus large que l'uniquement la sortie ou la non-sortie du nucléaire.
Parce que cette sortie du nucléaire, on en parle déjà depuis près de 25 ans maintenant. Retour en 1999, par un petit matin de juillet.
On a dégagé les derniers obstacles qui subsistaient encore.
Guy Verhofstadt tient son accord de gouvernement.
D'ici une dizaine de jours, il devrait y avoir un gouvernement fédéral.
Un gouvernement arc-en-ciel, libéraux, socialistes et écologistes, envisage la sortie du nucléaire.
On va progressivement apprendre à parler à l'imparfait de l'énergie nucléaire.
Mais pour parler du nucléaire à l'imparfait, on va voir qu'il faudra pas mal se projeter dans le futur. En 2003, une loi annonce le champ du cygne des 7 réacteurs belges.
En fin d'après-midi, le Sénat a adopté le projet de loi prévoyant la sortie progressive du nucléaire.
La décision ne fait pas l'unanimité.
L'irrationnel de la décision m'énerve au plus haut point.
L'argument climatique est déjà brandi par ce climatologue de l'UCL.
Il est un devoir pour le développement durable de maintenir les centrales nucléaires en activité.
Mais c'est décidé, les réacteurs fermeront 40 ans après leur mise en service. Les premiers s'éteindront en 2015.
Puisqu'elle fut lancée en régime de croisière en juillet 1975.
Imaginez-vous, la Belgique était encore unitaire au moment de leur inauguration et Leo Tindemans était Premier ministre.
L'énergie nucléaire répond à des besoins réels de notre société.
Bref, nos centrales sont des vieilles dames, mais la loi de sortie du nucléaire se fissurera bien avant les réacteurs.
Le MR rouvre le débat sur la sortie du nucléaire.
Ce sont déjà les libéraux qui portent les premiers coups.
Peut-on arrêter aux dates prévues ?
Didier Reynders était leur président.
Ou bien faudra-t-il les prolonger pour se donner le temps d'avoir des énergies de remplacement suffisantes ?
En 2009, le socialiste Paul Magnette, ministre de l'énergie, envisage la prolongation de 3 réacteurs.
Nous n'avons pas la capacité suffisante pour se passer des centrales.
Depuis 2003, rien n'a été entrepris pour remplacer le nucléaire.
Le plan de sortie n'était pas suffisamment complet.
2011, la catastrophe de Fukushima fait réfléchir. Charles Michel hésite.
Les éléments au Japon semblent être graves. On doit pouvoir être informé sur la situation en Belgique.
Mais le doute ne sera que temporaire. 2012, Melchior Watley offre un sursis à Tihange 1.
Grâce à cette prolongation de Tihange 1, on assure la sécurité d'approvisionnement. Ça veut dire qu'on garantit qu'il n'y a pas de blackout.
2014, Marie-Christine Marguem devient ministre de l'énergie.
Je ne dis pas que c'est utopique, je dis que c'est probablement, au moment où nous sommes, irréaliste.
Elle prolonge 2 réacteurs supplémentaires.
Prolonger de 10 ans la vie des centrales nucléaires, d'où l'un et deux, c'est la décision que vient de prendre le gouvernement fédéral.
1999-2021, deux décennies de surplace.
La Belgique actera-t-elle ou non sa sortie du nucléaire en 2025?
Un débat qui tourne en rond.
On fera tout pour que la Belgique ne tombe pas dans le noir.
C'est un moyen de passer à une énergie 100% renouvelable.
Se donner le temps.
Le plan de sortie n'était pas suffisamment complet. On garantit qu'il n'y a pas de blackout.
Je dis stop!
Alors si ce gouvernement confirme bien la sortie du nucléaire pour 2025,
faux.
On ne sera pas très étonné si cette décision est assortie d'une petite bouée de secours pour l'atome.
Dans la perspective de 30-40 ans, il faut avoir assez d'ouverture d'esprit.
Et pour poursuivre notre réflexion sur ce dossier chaud, sur ces nombreux épisodes de la sortie du nucléaire, on se retrouve en studio avec toi, Imad, tu es de retour, salut. Et avec vous, Isabelle Durand, bonjour.
Bonjour.
Alors Isabelle Durand, vous êtes aujourd'hui secrétaire générale adjointe de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à Genève. Mais entre 1999 et 2003, il y a 20 ans donc, vous étiez aux premières loges de la décision politique concernant la sortie du nucléaire en tant que vice-première ministre écolo du gouvernement arc-en-ciel.
Ça vous fait quoi de réentendre toutes ces archives ?
Ah ben oui, non, ça rappelle d'abord le point de départ de cette décision et puis tous les aléas qu'a subi cette décision qui a pourtant été prise. Enfin, on se rappelle tout de même qu'une loi existe, une loi de sortie du nucléaire existe, et entendre successivement toutes ces prises de parole, et je ne les juge pas, mais elles démontrent en tout cas d'un espèce de stop and go permanent, d'une incapacité à un moment donné trancher les choses et surtout... Je dirais à préparer la suite, parce qu'une chose est la décision sortie, et puis en effet, la question c'est comment est-ce qu'on booste sérieusement le renouvelable, surtout maintenant, après la COP26, après tous les engagements qui ont été pris, la nécessité absolue de faire mieux du point de vue des renouvelables.
Alors, restons peut-être un petit peu dans le passé, on est donc en 2002-2003, au moment où se négocie le texte au sein du gouvernement arc-en-ciel. C'est votre collègue Olivier Deleuze qui est chargé de transposer l'accord qui avait été obtenu par Jacky Morel lors des négociations visant à former donc, le gouvernement arc-en-ciel. Alors ça se passe relativement bien, Electrabel joue le jeu à l'époque, n'est pas nécessairement vraiment en opposition, mais il y a un personnage qui a vraiment tout fait pour faire tomber l'accord, pour l'empêcher, c'est le chef de cabinet de Guy Verhofstadt à l'époque, Luc Kuhn.
Mais disons que c'est vrai que ce n'était pas le dossier le plus difficile de la coalition arc-en-ciel et que les choses se sont pas si mal passées, en tout cas dans la préparation de la décision et dans le dialogue avec Electrabel. Et je pense que Olivier Deleuze et Jean-Pierre Hansen à l'époque ont eu un dialogue respectueux, si je peux dire. Ils n'étaient pas nécessairement d'accord, mais en tout cas, personne n'a voulu, et certainement pas Electrabel à ce moment-là, en faire un énorme grand débat public, polémique, etc. Par contre, il est vrai qu'il y avait aussi des résistances. Je veux dire, ce dossier du nucléaire, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, il y a ceux qui pensent, à tort ou à raison, je pense personnellement à tort, que finalement l'énergie nucléaire reste et doit rester un des piliers ou un pilier important de notre production électrique. Et donc, en ce sens, oui, il y a eu des oppositions à l'interne, je dirais, du gouvernement et même de façon très proche. Ça n'a pas été simple. Néanmoins, je pense qu'au final, la loi a été votée. Elle a été votée avec, c'est vrai, une condition de sécurité d'approvisionnement. Et j'entendais dans les petits extraits que vous diffusiez que certains disaient ben, ils n'ont pas prévu ce qui allait avec. Ben, il fallait à un moment donné, ça dépend comme c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'on commence par dire « Ok, on décide de la date de sortie ?» Et puis en plus, après ça, se met en place une politique ou une stratégie pour arriver à l'objectif. On peut considérer qu'on doit d'abord faire le contraire, c'est-à-dire qu'on doit d'abord construire tout le système. Mais si on n'a pas une échéance, et surtout si on ne donne pas un signal au monde extérieur, aux investisseurs privés, parce que ce n'est pas une question politique, c'est aussi une question d'investissement, une question, on peut faire le choix, mais après il faut que les acteurs privés suivent. Et les acteurs privés, ils ont besoin d'une date limite pour pouvoir préparer, eux, leurs investissements. Donc je pense qu'on avait raison de dire d'abord on choisit la date de les 40 ans de vie de chacun des 7 réacteurs à l'époque. Et dans les gouvernements suivants, le problème c'est que c'est vrai, on n'a pas toujours fait ce qui aurait dû être fait pour préparer cette sortie. Et je pense d'ailleurs qu'à l'époque, certains sans doute se disaient, bon, 2025, on était en 2002, 2003, 2025 c'est loin, hein. il va se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Et donc, finalement, ça n'est peut-être pas si grave de prendre cette décision. Ben voilà, on voit bien 20 ans plus tard que, oui, quand on a pris une décision, ben, on doit la préparer. Et pour le coup, ici, on doit avoir la bonne stratégie pour effectuer ou mettre en place cette loi.
Mais c'était donc peut-être prévisible le fait que le gouvernement suivant ne ferait rien du tout.
Oui, c'était peut-être un pari que certains faisaient. Je pense que ce pari aurait dû aussi être accompagné de mesures plus, je dirais, plus claires sur des échéances intermédiaires, sur des signaux plus clairs.
C'était
donnés.
Pas possible de négocier ça à l'époque ?
Ben, je pense que déjà la négociation sur la sortie du nucléaire en tant que telle était la clé. Et nous pensions, et je pense toujours d'ailleurs qu'à un moment donné, dans un souci justement de donner un signal, il faut faire ça. Alors c'est vrai qu'on peut-être on aurait pu rêver qu'en même temps que faire cela, nous aurions été capables de faire toute la programmation. Mais je pense que faire une programmation à 25 ans en 2002, déjà fixer une date et une échéance, donner à tous le signal, non seulement au privé, mais à tous les autres acteurs, maintenant, y compris aux régions d'ailleurs, il faut y aller sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur l'ensemble des autres sources énergétiques pour remplacer progressivement la fourniture d'électricité par le nucléaire. Quand je regarde les décisions d'autres pays et de pays, on ne va pas prendre que la France, prenons l'Allemagne. Je veux dire, l'Allemagne a fait un choix assez radical dans le choix du nouveau gouvernement qui se met en place, non seulement de sortir du nucléaire clairement, mais aussi de sortir du charbon. Et donc, ils ont fait un choix double, exigeant, puissant, et je pense qu'on n'est pas dans le même débat aujourd'hui sur les énergies alternatives qu'on l'était même il y a 20 ans et même il y a 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, la crise climatique est devenue tellement précise, tellement proche de nous, tellement présente, qu'elle exige sur le renouvelable des décisions beaucoup plus fortes. Donc, voilà, je ne prends pas position sur qui est responsable de quoi. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans le monde entier, en particulier dans le monde développé, on fait des choix beaucoup plus clairs et beaucoup plus radicaux sur les énergies renouvelables. Et ça implique de donner des signaux clairs sur le nucléaire.
Néanmoins, on peut observer qu'il n'y a pas que les libéraux francophones qui sont attachés à une prolongation du nucléaire. On a entendu le professeur Berger de l'UCL dans le récit. Il y a également Jean-Pascal Van Ypersee. Lui, il est favorable depuis très longtemps, depuis 2006, à la prolongation. Et voici ce qu'il disait il y a quelques semaines. C'était sur les antennes de la Première dans l'émission Déclic de Julie Morel.
On est devant un dilemme aujourd'hui. Si on sort du nucléaire en 2025 pour toutes les centrales et que cela veut dire que l'on remplace la capacité perdue par des centrales au gaz, ça veut dire qu'on va émettre plus de CO2. On va se priver d'une capacité de production d'électricité qui émet peu de CO2, alors que si on attendait un certain nombre d'années, peut-être 5, peut-être 10, c'est à voir, on pourrait éviter de construire ces centrales au gaz qui, elles, vont forcément émettre davantage de CO2. CO2 qui va aussi être associé à des risques en termes d'intensification de l'effet de serre, d'épaississement de la couverture isolante autour de la Terre, etc.
Prolonger donc de quelques années pour ne pas devoir s'appuyer sur des centrales au gaz et donc produire moins de CO2, dit comme ça, ça semble plutôt une bonne idée, surtout pour des écologistes.
Mais j'ai beaucoup de respect pour le professeur Van Ypersee et ses analyses climatiques et d'ailleurs les écologistes et d'autres travaillent avec lui depuis longtemps. Bon, par contre, on peut différer sur un certain nombre de points et je pense qu'il y a à la fois à assurer les engagements climatiques que nous avons, mais il y a aussi l'autre aspect de ça, c'est de donner des signaux à ceux qui vont faire que réellement on va rencontrer nos engagements climatiques. Et ceux-là, c'est pas Monsieur Van Ypersee, c'est pas le MR, ce sont ceux qui vont décider d'investir des moyens substantiels et importants dans la recherche-développement, dans les alternatives. Et tant qu'on n'a pas un couperet qui tombe, les alternatives, on les regarde un peu de loin, où on n'y met pas suffisamment de moyens, non seulement pour la recherche-développement, mais aussi pour les investissements tout court. Et c'est vrai que on doit aussi regarder nos engagements climatiques dans une perspective globale. On a des chiffres et des engagements que nous avons pris, que la Belgique a pris, même si ça n'a pas été un exercice simple intra-belge. Mais nous devons regarder aussi les engagements européens. Et dans ce sens, je trouve que la Belgique a aussi un signal à donner.
La question nucléaire pour Écolo, c'est c'est une question de vie ou de mort ?
Non, franchement, enfin, de toute façon, voilà, moi je ne parle pas ici au nom d'écolo, je crois simplement qu'il faut regarder cette question d'un point de vue très pragmatique, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. Et je pense que de ces trois points de vue, j'espère que la solution qui sortira sera celle qui permettra de rencontrer ces trois objectifs et peut-être d'éviter une polémique qui ne nous aidera pas à être à la fois pragmatique et en même temps engagé sur les questions climatiques.
Mais donc si d'aventure le gouvernement devait décider d'une prolongation ou de ne pas fermer en tout cas les réacteurs, les derniers réacteurs en fonctionnement, écolo, il survivrait ?
Écoutez, je fais confiance à ce gouvernement pour essayer de chercher les bonnes solutions sorties de ce problème, à la fois pour de bonnes raisons, qui sont les raisons écologiques et économiques, et aussi pour des bonnes raisons politiques, parce que c'est pas facile de mener un gouvernement. Pour ma part, j'y ai participé, je sais combien c'est compliqué, et donc je leur fais confiance et j'espère, vraiment, je croise les doigts pour qu'ils trouvent une solution qui soit acceptable pour tous et qui soit surtout acceptable pour des objectifs climatiques et économiques et environnementaux.
On a vu ce qui s'est passé en 2003 dès qu'Écolo n'a plus été présent au sein du gouvernement fédéral. Ce qui se passe actuellement, ça justifiait le fait d'entrer dans ce gouvernement-ci, malgré les difficultés. On a vu par exemple les sans-papiers il y a quelques mois. Sans Écolo, une politique écologiste forte en Belgique, c'est difficile.
Une participation gouvernementale pour tout parti et aussi pour les écologistes, c'est toujours un exercice assez compliqué dans lequel, évidemment, on mettra l'accent sur les points qui sont prioritaires pour ce parti et en même temps, voilà, on devra accepter des compromis avec d'autres et les coalitions de type Arc-en-Ciel ou de type Vivaldi sont à la fois intéressantes et compliquées. Je pense que, voilà, chacun y fait son travail et j'espère vraiment qu'on arrivera à quelque chose qui soit tenable, surtout dans une période comme celle de la période Covid aujourd'hui, dans laquelle il y a tant de découragement, tant de colère accumulée chez un tas de gens pour toutes sortes de raisons, parce que la situation n'est pas facile. Je pense qu'on se passerait bien d'une nouvelle grande polémique et qu'une solution raisonnable, justifiée, argumentée et qui rassemble ce gouvernement est très, très, très souhaitable.
Justement, certains trouvent qu'on en parle un peu trop de ce dossier du nucléaire, qu'il empoisonne les débats et qui l'empêche de parler d'autre chose, peut-être de l'essentiel. C'est ce que pense Jean-Pascal Van Ypersel que je vous propose d'écouter.
Ne passons plus trop de temps à parler de cette question-là qui n'a qu'un intérêt limité finalement. Parce que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de l'augmentation, alors qu'on devrait aller vers une diminution, des émissions dans le domaine du transport. On ne s'occupe pas de la décarbonation dans le domaine des bâtiments ou dans le domaine de l'alimentation, alors qu'il y a tellement à faire. Quelque part, on brouille les cartes. Ça empêche de parler de tout le reste, qui est beaucoup plus important en quantité de CO2 et de gaz à effet de serre émises. On ne s'en occupe pas.
On parle trop de nucléaire, Isabelle Durand ?
Il a raison. C'est vrai que la production d'électricité n'est pas le plus grand producteur ou le plus grand émetteur de CO2. Et donc, il y a plein de secteurs dans lesquels on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc, il a parfaitement raison. Même si on doit régler cette question du nucléaire, on doit aussi et tout de suite s'attaquer à tous les autres problèmes. Le transport, l'agriculture, l'isolation des bâtiments et tout ce qui peut aider à réellement faire cet objectif. Mais là aussi, on aura besoin d'acteurs pour faire ça, et d'acteurs et d'investisseurs et de recherche-développement. Donc, il faut s'y mettre.
Les écologistes auraient mieux fait de se battre plutôt contre les voitures de société que pour une sortie définitive du nucléaire ?
Non, je pense que... Parce que le nucléaire, il y a un autre problème qui est celui des déchets, dont on ne parle pas beaucoup ici, mais qui reste quand même un très, très gros problème. Au-delà de la production ou pas de CO2 et des délais, en termes de délais, les déchets radioactifs, on va les avoir encore quelques centaines de milliers d'années. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est absurde, d'une certaine façon, de générer des déchets à si longue échéance. On doit sortir d'un système sur lequel on a très peu de contrôle.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu partager votre regard sur ce dossier qui empoisonne la vie politique depuis 20 ans. Merci à vous, tous nos auditeurs des 4 saisons. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Salut,
à bientôt.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi, mis en musique par Jérémy Boquet.